Et nous voilà revenus dans des ondes fort noires pour notre deuxième partie d'émission. Donc Jacques, là tu vas nous emmener il y a longtemps et loin. Non,
assez loin, pas vraiment. Enfin, disons que dans le sud de l'Italie, à Naples.
Ah, c'est loin en voiture. Hein.
De nos jours, ou à peu près, pour un roman de Maurizio De Giovanni. Il écrit pratiquement tous ses romans sur Naples, c'est sa ville. C'est aussi l'un des personnages principaux de ses romans. Donc ce roman s'appelle « La collectionneuse de boules à neige ». Il est publié au Fleuve Noir et il est traduit par Jean-Luc De Fromont. Alors, nous avons déjà parlé ici de Maurizio De Giovanni, c'est peut-être pour ça que tu parlais du passé.
C'est pour ça, parce qu'en général, voilà. C'est roman...
Donc, sa série se passait à Naples, celle du commissaire Riccardi, mais elle se déroule dans les années 30, à l'époque de l'Italie fasciste.
Voilà pourquoi je m'étais fourvoyée.
Ça, c'est donc... Enfin, ce roman fait partie de la deuxième série, celle des enquêtes de l'inspecteur Lo Giacono. Alors, cet inspecteur, c'est un flic sicilien... qu'on pourrait dire immigré et même envoyé, enfin presque viré sur le continent après des démêlés avec la mafia sicilienne bien évidemment. On l'avait découvert dans un roman qui s'appelait « La méthode du crocodile » où, en gros, à lui tout seul, il résolvait l'affaire d'un tueur, je ne veux pas dire tueur en série parce que ça n'était pas vraiment un, d'un tueur multirécidiviste, voilà, à Naples. On le retrouve cette fois-ci, mais il intègre un nouveau commissariat, celui de Pizzo Falcone. Ou Falcone. Et une nouvelle équipe est constituée. Alors, un peu comme dans le roman de Sophie Naf dont on parlait en première partie, c'est constitué d'un peu tous les rebuts, de ce qu'on ne veut plus dans les autres commissariats, pour diverses raisons. Et ils sont tous un nouveau commissariat. En fait, c'est plutôt un commissariat qui renaît, parce que tous les gens du commissariat d'avant ont été mis hors course, vu qu'ils avaient touché et usé de pots de vin, d'argent, ils avaient piqué dans les stocks de drogue pour le revendre, etc. Donc hop, ils refont un commissariat à neuf avec un peu des branquignoles, ou plutôt des bras cassés. Et cette fine équipe va enquêter sur le meurtre d'une notable de la ville, une femme riche, très riche même, qui est l'épouse du notaire, le notaire en vogue de la ville, donc de Naples, celui qui marche vraiment bien. Et cette femme, c'était une femme délaissée par son mari, qui est coureur de jupons et qui est aussi d'une plus basse extraction, c'est bien fait remarquer, que celle qui était encore belle, Cecilia de Santis. C'est elle qui est morte donc. Et vous en doutez, c'est elle la collectionneuse de boules à neige. Et c'est avec l'une de ces boules, enfin c'est une de ces boules qui est l'arme du crime.
Et quand vous la retournez, ça neige.
Et voilà, ben là ça neige, mais ça, c'était un peu rouge aussi.
Oui, oui.
Alors, je pourrais vous raconter l'enquête ou vous détailler un peu la fine fleur de l'équipe du commissaire Palma. C'est lui, là, le chef de Lo Giacono. Mais en fait, je préfère que vous le découvriez tout seul. Je ne vous parlerai pas vraiment de l'intrigue ou de la façon dont elle est menée. Pourtant, c'est vraiment impeccablement fait. C'est au cordeau, c'est une véritable enquête très très bien faite avec des rebondissements dignes des meilleurs auteurs italiens et en fait même des meilleurs auteurs de polar tout court.
Oui, c'est ce que je veux dire. Pourquoi italien? Voilà. Nous en avons de très bons chez nous.
Non, mais c'est au niveau des grands Italiens qu'on aime. Et ce qui fait la force de ce livre, comme dans l'autre d'ailleurs série du commissaire Riccardi, c'est les personnages et comment en fait il réussit à nous faire passer les sentiments et les souffrances de ces personnages. Il y a des pages magnifiques sur cette collectionneuse de boules à neige qui s'est plongée dans cette collection un peu ringarde en fait, même carrément ringarde, pour échapper à son monde, à son milieu, à son mari et surtout à sa solitude. Et solitude...
Ça, il faut être sacrément seul pour collectionner voilà. Des boules à neige.
Et solitude, c'est vraiment le mot, et même le mot M-O-T et le mal, qui revient souvent sous la plume de Maurizio De Giovanni, dans le précédent Le Crocodile, ou dans les autres enquêtes de Riccardi, il y a souvent des gens qui sont extrêmement solitaires. Et puis il y a aussi les femmes. Et les femmes, presque toutes, sont belles, pas seulement physiquement ou pas forcément physiquement, mais elles ont toutes un petit supplément d'âme ou un petit quelque chose qui nous donne envie, enfin au lecteur, de les connaître un peu plus. Que ce soit la jeune fliquette névrosée, la séduisante magistrate, la femme donc morte, Cecilia, il y a la patronne du restaurant, ou même une qu'on aime, a priori on n'aurait pas tendance à aimer trop, la maîtresse arriviste du notaire. Et puis dans ce roman, il y a Naples. Ville pauvre, ville assez meurtrie, qui a plutôt une, ou carrément une mauvaise réputation, et qui est pourtant, à la lecture de ce roman, terriblement attirante. C'est vraiment une ville qu'on a envie d'aller voir, d'aller visiter, d'aller croquer un morceau de pizza dans une coin de, dans un coin d'une rue qui est pourtant n'est pas forcément a priori bien famée, mais on se dit que voilà, il peut rien nous arriver quand on a lu ce livre et qu'on va voir Naples. C'est un peu bon, c'est l'avantage de la lecture. Alors cette nouvelle série de romans, il y en a des enquêtes donc de Loggia Cono. Il y en a déjà 4 qui sont parus en Italie. Maurizio De Giovanni réussit avec donc la création de ce commissariat, en fait, un très bel hommage au 87e district. Il cite d'ailleurs Ed McBain à la fin du roman comme un de ses maîtres dans les remerciements de son livre. Et chacun des flics, dès ce roman-là, donc le premier qui met en scène toute l'équipe, chacun des flics prend déjà sa place dès le premier roman. On sent que dans les suivants, il y en a un qui va peut-être prendre un peu plus d'importance, pas forcément que Loggia Cono. En plus, de façon là plutôt malicieuse ou marketing, on va dire malicieuse, l'auteur place à la fin du roman un léger cliffhanger qui, dans les dernières lignes du roman, qui nous fait déjà en fait espérer le suivant. Ben, il faudra attendre.
Un cliffhanger dans une boule à neige, moi je vous le voilà. dis, ça se place pas facilement ça.
Un cliffhanger en même temps, c'est quand il est accroché à la colline, donc il peut y avoir de la neige. Alors avant de finir, je voulais deux petites précisions. On peut très bien lire ce roman
sans avoir lu La méthode du crocodile,
voilà. Et lequel méthode du crocodile paraît ces jours-ci en poche. Donc si vous voulez vous lancer dans les aventures de Loggia Cono, soit vous passez directement à la boule à neige, la collectionneuse de boule à neige, soit vous vous rabattez sur La méthode du crocodile, ou soit vous prenez les deux, c'est bientôt l'été,
faut
on va avoir du
confiance.
Temps pour lire. Faites-nous confiance, allez-y, la collectionneuse de boule à neige, c'est absolument extra. Alors il y a un petit sous-titre sur la couverture, qui a tué Madame de Santis dans sa chambre avec une boule à neige, qui nous ferait rappeler un peu un jeu fameux.
Oui.
Mais en fait, bien que l'intrigue soit très bien faite, on est assez loin du jeu, même s'il y a des moments très drôles.
Mais c'est pas le dictionnaire, c'est ça que je veux dire.
C'est pas le dictionnaire, ni le Cluedo.
Voilà. Bon, eh ben, on va passer un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique, sans rapport, ni avec ce qui précède, ni avec ce qui va suivre, mais c'est juste parce que c'est un très bon chanteur qu'on aime beaucoup, Nick Cave. C'est un extrait de son récent album live, qui a été enregistré à Londres il y a tout juste un mois, le 3 mai. Et c'est une tournée solo, mais pour ce concert de Londres, il a eu Warren Ellis, Martin Kazé, qui l'ont rejoint. Nick Cave est au piano, et c'est un de ses plus beaux morceaux peut-être, Red Right Hand.
You ready? Secrets lie in the border files, and the humming wise. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you up in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all of those dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul. But don't you worry, buddy, he ain't never coming back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a good. His name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Et voilà, et bien. C'est le moment de rejoindre quelques bulles noires avec Frédéric. Frédéric Prieux, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
C'est un plaisir de vous retrouver parce qu'on s'est un peu loupé ces derniers mois. Donc
Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des mauvaises ondes.
Il y a de la friture entre Penmar et...
Ploua. Ben c'est grand la Bretagne.
Ploua et Grasse. Alors, si je ne m'abuse, mon petit doigt et un mail m'ont dit que vous allez nous parler d'une certaine Maggie Garrison.
J'allais vous le dire. Effectivement, une jeune femme, chers amis, que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Alors, donc, Maggie Garrison, donc une nouvelle série de Lewis Trondheim et Stéphane Wary, deux volumes parus pour l'instant, 2014-2015. Je vous parle des deux d'un coup. Alors, Maggie Garrison vit à Londres et elle vient juste de décrocher un petit travail de secrétaire auprès de Stephen Wright, Private Investigator, c'est-à-dire détective privé, quoi, pour les ignares comme moi. Donc elle se rend à ce nouveau job, moyennement convaincue d'être la bonne personne à la bonne place, mais les temps sont durs et quand on n'a pas bossé depuis longtemps, on fait quelques efforts pour ne pas passer dans la catégorie des oubliés définitifs. Et on met de côté ses rancœurs contre la société. On essaye et on fait un sourire, d'où le titre du premier album, fait un sourire Maggie, la pauvre à qui il n'arrive que des malheurs. Donc, voilà, elle accepte, mais le sourire va se figer quand l'employeur est découvert par la nouvelle secrétaire affalée sur son bureau, la tête sur le clavier de son ordi. Mort ? Non, juste un lendemain de cuite un peu difficile, mais des choses qu'on ne connaît pas, vous, hein, vous et moi, n'est-ce pas ?
Détective privé.
Oui, voilà. Et au réveil, le patron est clair, parce qu'il n'est pas mort, donc il n'y a rien à faire pour l'instant et j'ai pas les moyens de vous payer à glandouiller sur Internet avec mon ordinateur. Fait un sourire, Maggie, donc. Alors, mais bon, rien à faire, certes, mais en deux temps, trois mouvements, elle réussit quand même l'exploit de résoudre une première affaire, la disparition de Rodrigo, le canari de la voisine, qui a été bouffé par le chat de la troisième. Du troisième, enfin... Bon, ça part fort.
On retrouve l'humour de Trondheim, effectivement.
Exactement. Voilà comment il voit la détective privée. Et en fait, évidemment, pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est que le patron, le Stephen Wright, se fait tabasser chez lui et est emmené à l'hôpital. Et à partir de ce moment-là, débute une autre affaire d'un genre plus périlleux pour Maggie, et qui, au bout de quelques rencontres plus ou moins louches, plus ou moins réconfortantes, va se retrouver, alors je le dis tout de suite à la fin du tome 1, c'est pas du spoil, comme on dit, de dire ça, mais avec un semblant de petit ami et 30 000 livres à partager avec lui. Et dans le tome 2, là j'abrège, toutes les questions restées en suspens vont être réglées ou presque, et une autre enquête va démarrer pour Maggie et Stephen Wright autour d'un frère et d'une sœur qui s'accusent mutuellement du vol de bijoux de leur défunte mère, des histoires de famille. Donc la question est-ce que la nouvelle vie de Maggie va lui permettre de enfin retrouver son sourire? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, chers auditeurs et auditrices, la série Chicanos de Trio et Rissot, Rissot, l'auteur de 100 Bullets, cette formidable série, qui avait créé dans les années 90 un personnage d'une jeune femme qui s'appelait Jalisco, et qui était l'aide pauvre et détective privé. C'était le titre d'un des albums. En fait, c'est un peu ça, la base sur laquelle on lance. Enfin,
apparemment, elle n'est pas si laide que ça, parce qu'elle se trouve un petit ami, et en plus, elle devient riche parce qu'elle a 30 000 euros.
C'est presque la dame basse, mais c'est quand même une sorte d'anti-héroïne, parce que voilà quelqu'un qui fume, qui boit, qui jure, et qui n'a pas franchement la ligne. Bon, alors, et qui en plus, c'est ça qui est assez formidable, elle semble faire la gueule en permanence. Ça, c'est terrible. Et aussi, c'est qu'on est loin des filles canons là, qui mettent le mystère KO entre deux déshabillages et trois coups de latte en talon aiguille. Et ça, déjà, rien que ça fait énormément de bien au lecteur. Et à la lectrice, qui commençait à se demander si dans les polars, en BD, ça existait, les polars de la vraie vie.
On voit que vous êtes spécialiste de la BD, parce que donner des coups de latte en talons aiguilles, c'est fort, c'est très fort.
Oui, on en voit
de tout maintenant, c'est sûr.
C'est un petit peu étrange, voilà. Donc, pas de ça chez Maggie Garrison, donc vous allez me dire, bon, alors, pas de cliché, mais le privé fauché, vous allez, ah oui, alors voilà bien notre cliché. Bah, c'est là que Trondheim, justement, et Wary sont vraiment fort, parce que pour donner de l'épaisseur à ce personnage qui veut éviter d'être archétypal et de ne pas en rester à la simple esquisse, on voit des scènes du quotidien de Maggie sans un rond tout au long de leur intrigue. Il y a une scène, par exemple, dans une supérette où elle voit un encore plus pauvre qu'elle en train de voler des biscuits. Mais le gars, il vole des biscuits bas de gamme. Ce qui inspire à la réflexion à Maggie, bah, tant qu'à se faire gauler, autant piquer des plus chers et plus qualitatifs. Aucune ambition, même dans la loose. Voilà ce qu'elle pense. Et ça me fait penser à cette fameuse réplique de Michel Blanc dans Marche à l'ombre. Piquer des trucs chers, c'est du vol. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, Voilà l'ambiance un petit peu générale, un quotidien réaliste, crédible, où une jeune femme s'échine, transparente physiquement, du premier abord, à résoudre une enquête.
Apparemment, elle n'est pas fine, donc elle ne peut pas être transparente non plus.
C'est toute la subtilité.
Je suis.
Elle n'est pas si fine, mais transparente du fait qu'elle n'est pas remarquée par les messieurs, ce qui la chagrine aussi. Enfin, bon. Tout ça, c'est dans un monde plus vrai que nature, même si Wari, il dit que quelqu'un qui irait dans le monde qu'il a dessiné, il peinerait à le reconnaître parce qu'il a tout remodelé. C'est ce qu'il dit dans une interview dans un Spirou. Et l'homme qui est entré dans mon lit, le deuxième tome, reprend là où il s'est arrêté le premier. Et on retrouve l'homme en question qui est Alex Barry. D'ailleurs, Alex Barry, on se demande si c'est un petit clin d'œil à Alan Ford, c'était oui. Magnus, ou à John Barry, hein, vous voyez bien qui est John Barry, j'espère. Hein,
oui, tout à fait.
Ils ne disent pas. Donc, ce John Barry, il y a aussi une autre enquête. Il y a parallèlement ce John Barry, auquel on s'intéresse, une autre enquête où elle retrouve son ex-patron parce qu'elle s'était fait virer à la fin du tome 1. Donc, c'est vraiment une bande dessinée qui est vraiment, vraiment réussie parce qu'on lit ça avec un immense plaisir. Et il y a aussi, de la part de Stéphane Wari, une utilisation d'une technique qui est peu courante, bon, peu courante si, pas si courante que ça, c'est celle dite du gaufrier. C'est-à-dire la mise en page, c'est 3 cases par 4, c'est-à-dire 12 cases, des carrés. C'est quasi immuable, ce qui permet, d'après les auteurs, de résoudre plein de problèmes de lisibilité, de densifier le récit, ce que dit Wari, et surtout de rester concentré sur ce qui se passe et d'éviter de chercher l'esbrouve graphique. Ça me plaît beaucoup, ça, parce qu'effectivement, on est vraiment dans le récit au plus près de l'intrigue, non, mais oui, et des personnages. Et le Londres réinventé par Wari, il est assez formidable dans le sens où on a vraiment les pubs, ils sont plus vrais que nature, et on a envie d'aller partager une pinte avec les figurants, les seconds rôles qui sont vraiment des personnages authentiques, même si on les croise que peu de temps. Donc voilà, c'est ça la grande force de Maggie Garrison. On commence à lire, on est tout de suite fasciné par la personnalité de la jeune femme, et on devient vraiment accro à son petit monde, on s'attache à elle, à ses galères, on croise les doigts et on se dit tout le temps, elle va quand même tout de même pas faire ça, et si elle le fait, et toutes sortes de choses un petit peu, voilà. Et c'est exactement comme les séries polar dont on ne peut décrocher, moi c'est l'impression qu'on a fait, et c'est vraiment très 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 agréable.
Est-ce que c'est une série qui est amenée à continuer ?
5.
Oui, tout à fait. J'ai pu discuter pour une fois avec l'auteur, je ne frime pas, mais je le sais, le dessinateur qui disait que oui, c'est il y a au moins 3 ou 4 volumes, et ça se suit sans se suivre, c'est-à-dire qu'on, comme dans les séries, les épisodes s'arrêtent, mais il y a un fil conducteur, et on suit aussi la vie de Maggie. Donc c'est Fait un sourire, Maggie, 2014, et L'homme qui est entré dans mon lit, 2015. Voilà.
2015. Et je crois qu'on n'a pas dit l'éditeur, Dupuis.
C'est chez Dupuis. Il y a encore 30 secondes. Oui.
C'est ce que j'allais dire. 30 secondes, il vous reste.
Eh ben, 30 secondes, chers amis, pour féliciter et saluer le prix SNCF du Polar qui est allé BD pour la BD 2015 qui est allé à Rouge Karma de Pierre-Henri Gaumont et Eddie Simon aux éditions Sarbacane, qui est un autre portrait de jeune femme absolument étonnant. Une jeune femme qui part enceinte jusqu'aux yeux, c'est-à-dire 8 mois et demi, retrouver son compagnon à Calcutta dont elle n'a plus de nouvelles depuis 3-4 mois, alors qu'il est censé avoir un travail. Elle arrive là-bas, elle se rend compte qu'il n'est pas à ce travail et que ce travail n'existe même pas. Et grâce à un chauffeur de taxi, on va la voir déambuler dans un Calcutta absolument formidable et fascinant. Et pour une histoire vraiment, vraiment aussi très, 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 très bien foutue, avec une ambiance lumière, une lumière, une brume permanente, étouffante. C'est très 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 réussi, c'est un prix mérité, un prix de lecteur, puisque c'est les gens qui votent, les internautes, les voyageurs et les lecteurs de bande dessinée. Donc Rouge Karma chez Sarbacane de Pierre-Henri Gaumont et Eddie Simon, avec Maggie Garrison, vous avez deux superbes portraits de femmes battantes.
Eh bien, on vous dit tout simplement merci et au revoir, parce que là, on arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup, Frédéric, à très vite.
Et à bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir. Eh bien, juste le temps de vous dire au revoir. À bientôt dans son coin, avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.